un des conseils que j'ai retenu de toutes les rencontres faites avec les expatpreneurs qui ont témoigné sur le podcast, savoir s'entourer. C'est pourquoi je vous invite à jeter un œil à nos packs d'accompagnement pour vos business nomades. Que vous soyez en idéation, au tout début de lancement de votre projet ou à un stade bien plus avancé, nos experts sont là pour vous aider à développer votre business d'expatpreneur et à le faire décoller. Retrouvez toutes les informations sur le site ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, place à notre nouvelle invitée pour ce nouvel épisode.
Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
Bonjour Sophie et bienvenue sur le podcast de The Musette, le réseau des femmes expatriées entrepreneurs.
Bonjour Adeline, ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Eh ben c'est moi, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode de rentrée et j'ai hâte de t'entendre parler de ton parcours, de ta vie d'expat et de ton projet, bref, de plein de choses. Pour commencer, c'est une petite habitude que j'ai prise. Est-ce que tu pourrais partager ta petite carte d'identité, on va dire, avec ton nom, prénom, ton âge, si tu veux, où tu vis et avec qui?
Ouh là là, tout un programme. Alors, je m'appelle Sophie Maison, j'ai 47 ans, et oui déjà, une grande fille. Je suis mariée, j'habite à Londres depuis 16 ans, et je suis maman de deux enfants de bientôt 12 et 13 ans, une fille et un garçon, le choix du roi.
Avant de parler de ton projet, j'aime bien savoir quel a été le background professionnel de mes invités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu plus sur tes études que tu as faites et pour qui et dans quel domaine tu as travaillé avant?
Alors, j'ai eu un parcours académique, on va dire, assez classique, après le bac, j'ai fait une classe préparatoire et j'ai intégré une école de commerce. À l'époque, j'ai intégré l'école de commerce supérieure de Bordeaux, qui s'appelle maintenant KEDGE. Il y a eu tellement de noms différents à cette école. Et pendant ces années à Bordeaux, j'avais fait une spécialisation marketing et communication, parce que je savais déjà très tôt ce que je voulais faire et surtout ce que je ne voulais pas faire. Et du coup, je savais que je voulais travailler dans le marketing et dans la communication. J'ai été diplômée après Subdeco du DESS du CELSA à Paris, à Paris 4 Sorbonne, parce que je souhaitais aller un petit peu plus loin justement dans l'aspect politique de communication. Et puis surtout, ça m'a permis de faire un stage complémentaire en dernière année, et c'est là que je suis partie en fait faire un stage en Allemagne pour les parfums Christian Dior à l'époque, et je pense que c'est ce qui m'a donné le goût à l'étranger et qui aussi m'a mis le pied à l'étrier finalement dans l'industrie cosmétique, où j'ai passé les plus belles années de ma carrière, hein, puisque j'ai passé plus de 20 et quelques années dans les cosmétiques et dans l'industrie du luxe. Et donc grâce à ce stage, en fait, j'ai réussi à rentrer dans le groupe Bourjois Chanel en 1999, ça commence à dater, en commençant par les parfums bourgeois, ensuite Chanel. Et puis en 2007, en fait, je me suis mariée et mon mari a été muté à Londres. C'est comme ça qu'on a atterri à Londres. Et là, j'ai poursuivi ma carrière dans les diamants. J'ai fait une petite infidélité à la cosmétique en travaillant chez De Beers sur le lancement d'une marque de diamants, ce qui a été un projet assez fascinant. Et puis ensuite, je suis retournée à mes premières amours qui étaient les cosmétiques et le parfum en rentrant dans le groupe Shiseido, où j'ai passé pas mal de temps. Et la dernière entreprise où j'ai travaillé avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était Huda Beauty, que tu dois bien connaître, puisque la fondatrice Huda Khatan est basée à Dubaï. Voilà un petit peu mon parcours en quelques mots.
Et qu'est-ce que tu retiens de la culture d'entreprise, surtout dans l'entreprise cosmétique? C'est pas la même chose que dans une culture d'entreprise, je sais pas, qui sont dans les télécoms. C'est pas pareil, quoi.
C'est une industrie assez fascinante, la beauté et la cosmétique et le parfum, parce qu'on est quelque part, on touche du doigt la beauté, donc il y a une part de rêve, il y a une part de projection, d'aspiration, et puis en même temps, c'est une industrie, donc c'est-à-dire qu'il y a des contraintes industrielle, technique, de timing. C'est une grosse industrie, donc on parle quand même de gros chiffres d'affaires. Mais ça reste une industrie très sensorielle. Et justement, c'est ce qui me plaît dans cette industrie par rapport à l'expérience que j'ai eue, que j'ai pu avoir. Je faisais référence à De Beers auparavant, où j'ai travaillé donc dans la joaillerie. Et j'ai trouvé cette industrie beaucoup plus froide, sensoriellement parlant aussi. Et c'est ce qui m'a manqué. Et c'est pour ça que notamment, je suis retournée dans les cosmétiques et les parfums.
Alors justement, donc tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Donc on va parler de Bastille Paris. Comment es-tu venue à reprendre donc une marque de parfum? Tu vas nous dire ce que c'est. Et pourquoi tu as voulu rester dans ce secteur?
Déjà, la décision d'aller vers l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose qui s'est cristallisé pendant le Covid. Enfin, je pense qu'on a tous eu le temps de prendre du recul, plus ou moins, par rapport à la vie qu'on menait et ce qu'on voulait faire. Et je pense qu'au fond de moi, depuis longtemps, j'ai toujours aimé en fait développer des produits, les lancer. Mais il y avait peut-être quelque chose en moi qui voulait que ce soit plus personnel, quelque chose qui sorte peut-être un peu plus de mes tripes que ce que je pouvais faire pour des grands groupes. Et donc au départ, quand j'ai décidé en fait de me lancer, je me suis dit je vais pas réinventer la roue, je vais pas aller faire des yaourts alors que ce que je sais faire finalement ce sont des parfums ou des cosmétiques. Donc l'évidence pour moi ça a été vraiment de lancer une marque de parfum. Et je suis partie vraiment avec cette idée de créer ma marque de parfum de zéro. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, et c'est ça qui est assez magique finalement, une fois qu'on se met sur la route de l'entrepreneuriat et qu'on décide de développer un projet, c'est que d'une rencontre à l'autre, en fait, j'ai rencontré la fondatrice de Bastille, parce que je ne suis pas la fondatrice de Bastille, et que c'est par le biais de cette rencontre et de nos échanges que j'ai finalement sauté le pas de l'entrepreneuriat, non pas en créant ma marque, mais en rachetant la marque d'une jeune fondatrice. Donc finalement un projet un peu différent, mais qui répondait en même temps à ce que moi je souhaitais faire. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision finalement de racheter Bastille, pourquoi je l'ai racheté? Parce qu'il y avait beaucoup de valeur dans le projet et dans la marque qui me tenait à cœur, et que la marque était encore suffisamment petite finalement pour que je puisse aussi y mettre ma patte et la développer comme je le souhaitais.
Et tu te considères comment maintenant? Parce que tu disais que tu n'es pas la fondatrice. Tu te considères, tu vois, c'est un peu...
Alors oui, c'est assez marrant parce que du coup, il y a des gens qui m'appellent, qui me considèrent comme la fondatrice. Alors tu vois, mon titre, c'est quoi? C'est CEO, c'est présidente de la marque. C'est pas quelque chose qui me pose problème parce que voilà, c'est l'histoire de la marque et son évolution. Mais donc, je me présente comme présidente de la marque, CEO dans les pays anglo-saxons.
On va revenir aux valeurs plus tard. Juste, j'imagine que quand on est dans ce monde des parfums, il y a forcément des contraintes techniques, voire aussi sanitaires, je ne sais pas, je me dis, auxquelles tu dois faire face. Et si oui, quelles sont-elles?
Alors, des contraintes techniques, bon, on est dans une industrie. Donc, qui dit industrie, dit chaîne d'approvisionnement, avec tous les challenges qu'on a pu avoir, notamment à la sortie du Covid, ce qui a été d'ailleurs un des sujets difficiles de ces deux dernières années. C'est les approvisionnements en verre, les approvisionnements en pompe. Donc ça, c'est des contraintes un peu qui sont apparues avec le Covid. Après, en contraintes techniques, non, il n'y en a pas vraiment. Je veux dire, quelque part, la créativité est la limite de ce qu'on peut faire en parfum, hein, vu ce qu'on voit sur le marché en termes de flacons, en termes de capots, en termes de packaging. Il n'y a pas vraiment de limite à la créativité. En termes sanitaires, c'est plutôt, on est soumis à la réglementation des cosmétiques, hein, donc tout ça est très très encadré, notamment en Europe. Ça le devient aussi de plus en plus aux États-Unis, qui finissent finalement par s'aligner sur ce que fait l'Europe. Mais oui, il y a des contraintes de tests à réaliser, de compatibilité, de stabilité, des toxicologies sur les... Mais bon, ça vaut pour tous les produits qui sont mis sur le marché, et ça va dans le sens de toute façon de la sécurité pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment réglementé, mais dans une certaine façon, c'est très transparent aussi. Tout le monde a accès à la réglementation.
Et tes laboratoires, ils sont en Angleterre, en France?
Non, pour la formulation des parfums, je travaille avec les parfumeurs d'IFF, qui sont majoritairement basées à Paris. Enfin, IFF, c'est une des grandes maisons de composition de parfums. Il y en a plusieurs. Et ils ont un bureau à Paris, ils ont des bureaux à New York, ils ont des bureaux un petit peu partout dans le monde. Mais je travaille principalement avec les parfumeurs de Paris. Et puis, les concentrés en fait, des jus, une fois qu'on les a validés, sont fabriqués dans le sud de la France, à Grasse. Donc, j'ai la chance d'avoir mes concentrés qui sont faits dans le berceau de la parfumerie dans le sud de la France, à Grasse, et qui sont fabriqués donc par l'Atelier du Parfumeur, qui est une entité aussi qui fait partie d'IFF, où ils ont développé un vrai savoir-faire artisanal. J'ai vu les quantités que nous faisons actuellement, ils sont encore pesés à la main, mais vu le succès de Bastille, je ne doute pas qu'à un moment, on passe à autre chose. Tout ce qui est fabrication et mise en bouteille, mise en flacon, est fait aussi en France. En fait, toute notre production est faite en France, dans la région parisienne, près de Melun. Et on privilégie en fait vraiment les partenaires français de petites et moyennes entreprises ou des partenaires européens. On va jamais au-delà de l'Europe en ce qui concerne les fournisseurs.
Et c'est pas trop contraignant, tu me diras, Londres, c'est pas loin de Paris, de la France en général, mais c'est pas trop contraignant d'avoir la production, fabrication en France et toi d'être là-bas ?
Non, alors j'ai la chance qu'avec l'Eurostar, je suis à 2h15 de Paris, c'est vraiment très rapide, hein, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en fait sur la première année pour rencontrer les fournisseurs, pour aller sur place. Qui me connaissent, parce que je pense que ça change beaucoup de choses quand tu connais la personne en physique. Maintenant, une fois que t'as passé ça, ça te permet que je passe un coup de fil depuis Paris ou que je passe depuis Londres, finalement, une fois qu'on se connaît, ça se passe très bien. Et puis, ce qui se passe de plus en plus, c'est que j'ai basé certaines personnes de l'équipe à Paris pour qu'ils soient justement près de certains de nos fournisseurs. Et moi, je base d'autres métiers à Londres, plus près de là où j'habite, pour que justement il y ait un petit peu de hub au sein de l'équipe. Alors c'est vrai que c'est un challenge hein, d'avoir une partie de l'équipe à Paris, une partie de l'équipe à Londres, mais je pense que voilà, post-Covid, on est quand même tous habitués à travailler un petit peu différemment. Et puis bah, ça rajoute aussi, je dirais, l'avantage, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une culture, dans un seul pays. Moi j'aime beaucoup finalement naviguer entre Paris et Londres parce qu'à chaque fois ça me rappelle que oui, tout le monde n'est pas parisien ou tout le monde n'est pas français et que voilà, il faut s'ouvrir au monde et s'ouvrir à d'autres visions, d'autres cultures. Et c'est ce que le fait de rentrer, et finalement, je me sens plus chez moi maintenant à Londres qu'à Paris. Je rentre chez moi à Londres et ça me complète ma vision que j'ai pu avoir pendant la semaine de la vision parisienne.
Alors, si je me souviens bien, parce qu'on s'était rencontrés avant, tu t'es quand même associé avec quelqu'un et tu l'as fait assez rapidement. Donc, je me demandais, pourquoi, comment tu as choisi cette personne et quels sont les avantages que tu vois et voir les inconvénients à s'associer avec quelqu'un ? Parce que c'est vrai que c'est pas mal de travailler à deux, quoi.
Ouais. Moi, je vois ça comme une énorme chance, finalement, d'avoir pu m'associer rapidement. J'étais consciente dès le début que, bon, déjà, on te le dit, mais avant que tu t'engages, mais c'est une autre chose de le vivre soi-même. L'entrepreneuriat, c'est quand même très satisfaisant, mais c'est aussi très difficile. Il faut pas se cacher que voilà, on est seul derrière les manettes et que justement, quand on est seul, il y a des jours on aimerait bien pouvoir avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui rebondir, avec qui se challenger. Et moi, je savais assez rapidement, hein, après avoir pris la décision de racheter Bastille, que je ne voulais pas rester seule. Après, j'ai eu l'énorme chance de recroiser la route de Pascal, donc mon associé d'aujourd'hui, qui lui était directeur général de Coty en Russie et qui est revenu de façon assez, comme on l'imagine, prématurée et précipitée à Paris en février 2022, au moment où moi je rachetais en fait la société. Donc on s'est recroisés à ce moment-là, un peu par hasard, et en fait Pascal, qui a un profil très différent du mien, c'est-à-dire très complémentaire, puisque lui, il est plutôt sur la partie vraiment commerciale, business développement et chose qui est moins mon truc. Mon truc, moi, c'est plutôt le développement produit, le marketing, la communication. Et on s'est recroisés en février. Il a commencé à trouver l'aventure de Bastille marrante. Donc, il m'a filé un coup de main comme un ami l'aurait fait à ce moment-là. Et puis, d'une chose à l'autre, je pense qu'il s'est un petit peu pris au jeu et assez rapidement, je lui ai dit, écoute, plutôt que de rechercher à nouveau un job dans un grand groupe, est-ce que ça ne te dit pas de, de rejoindre l'aventure avec moi, et c'est comme ça qu'on s'est associés. Donc moi, j'y vois beaucoup d'avantages, parce qu'on échange, parce qu'on se challenge. Alors bien sûr, il y a une tension, on n'est pas toujours d'accord, mais en fait, au lieu d'arriver sur un consensus mou, ben ça nous oblige, nous, chacun à comprendre pourquoi l'autre a cette vision. Et en fait, comme toujours, je pense que de ce challenge ressort quelque chose d'encore mieux et plus abouti. Pour moi, c'était pas, de toute façon, Basti, c'est pas un projet d'ego où je veux avoir le total contrôle sur tout. C'était vraiment pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est construire une marque dans la durée, qui apporte de la valeur. Et l'aventure humaine aussi, tout simplement, hein, avec mon associé, avec les équipes, avec nos partenaires. Donc, je vois vraiment pas ça comme quelque chose de solo. Et je suis très contente de partager cette aventure avec Pascal, qui par ailleurs est en fait était un ancien collègue devenu ami, et on s'était rencontrés chez Chanel au début de nos carrières. Donc, c'est assez marrant.
Tu parles des valeurs. J'aurais voulu savoir quelles étaient les valeurs de la marque, est-ce qu'elles ont évolué depuis que tu l'as reprise, et pourquoi aussi ce nom, Bastille ?
Alors, Bastille, donc le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'était la fondatrice, qui au départ, en fait, voulait symboliser dans ce nom Bastille, quelque part, la révolution qu'initiait la marque en étant complètement transparente sur sa liste d'ingrédients et en étant formulée en naturel, ce qui, il faut replacer en fait... la marque dans son contexte, hein. La marque, elle s'est lancée juste au début du Covid.
T'as pas eu peur, hein. Enfin, juste Covid.
Oui. Alors du coup, c'était la fondatrice, hein, à l'époque, hein. Donc elle a lancé juste avant, et du coup, on était vraiment. Il y a eu tout ce changement finalement de la part des consommateurs qui ont fait de plus en plus attention aux produits qu'ils utilisaient, le pourquoi, le comment. Et en fait, Pastille s'est complètement inscrit dans cette démarche de transparence et de naturalité qu'ont eu les consommateurs. Et du coup, c'est pour ça que la marque s'appelle Pastille. Alors moi, au-delà du côté mini-révolutionnaire de la marque, moi, ce qui m'intéressait en fait dans le nom Pastille, c'est ce que ça symbolise pour, au départ, tous les Français, hein, dans le fameux Bastille Day, la prise de la Bastille. C'était ce concept de liberté. C'était le fait que, la prise de la Bastille, qu'est-ce que ça apportait à l'époque au peuple français? C'est la liberté. Et donc, on a fait tout un travail de plateforme de marque, là, durant l'année passée. Et notre nouvelle signature, en fait, pour la marque, va devenir Bastille Parfumeur de Liberté, avec un S. Ce qui, pour moi, illustre finalement ce que j'ai envie de faire avec la marque, c'est-à-dire donner la liberté à chacun de choisir sa signature olfactive, d'écrire sa propre histoire, son propre récit, grâce à notre collection de parfums, qui, elle, restera toujours transparente. On partage toute la liste d'ingrédients sur notre site web. Il y a vraiment aucun secret. On évite d'utiliser des colorants, des stabilisants, des solvants. On formule vraiment qu'avec le minimum, et on formule avec 95% de naturel, ce qui est un vrai challenge de formulation. Et puis le côté durable de nos parfums, c'est-à-dire qu'on est vraiment axé aussi sur la durabilité en termes de packaging. On essaie vraiment de prendre des packs minimalistes qui ont une empreinte très réduite en termes d'émissions de carbone. Et puis, on est membre de 1% for the Planet, et ce qui veut dire que chaque année, on reverse 1% de nos ventes à l'association Surfrider Europe, qui lutte notamment contre la pollution plastique des océans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur à la fondatrice, mais me tient à cœur aussi. Et je réfléchis aussi à d'autres moyens de d'étendre cet engagement de la marque vers d'autres sujets, d'autres actions qu'on pourrait mener.
On comprend bien qu'il y a, dans tes valeurs, il y a durabilité, éco-responsabilité. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est des choses qui sont obligatoires pour toute marque et dans n'importe quel domaine qui veut se lancer?
Oui, je pense que maintenant, c'est pas un facteur de différenciation. En fait, c'est là, c'est maintenant, et on ne peut pas faire autrement. Alors, pour certaines marques, c'est plus facile que d'autres, hein. C'est-à-dire que quand tu te lances, c'est plus facile de faire les bons choix dès le départ. C'est beaucoup plus difficile pour des sociétés plus importantes de faire pivoter le navire et pas à pas de devenir plus éco-responsable. Mais oui, maintenant, c'est inévitable.
Et là, je vais poser la question un peu, entre guillemets, qui fâche, dans le sens où, tu sais, j'ai l'impression que le monde de la parfumerie, c'est un peu comme le monde de la mode. Il y en a beaucoup. Alors, je ne dirais pas qu'il y a la fast fashion
fast parfumerie. Mais comment, enfin, tu vois, je me dis que c'est très concurrentiel aussi. Comment toi, tu gères la créativité, l'innovation, etc., tout en essayant de préserver aussi tes valeurs, ton identité de marque et de se faire une place par rapport à tout ça et sans trop dire consommons, 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 tu vois ce que je veux dire ?
Oui, alors bien sûr, c'est un défi au quotidien. C'est un marché hyper concurrentiel, ça c'est clair, hein, trusté par des grands groupes, mais il y a quand même beaucoup de marques, de parfums de niche qui se sont développés et qui apportent peut-être une réponse différente sur le marché. Alors, certaines marques qui, pas du tout dans l'éco-responsabilité ou quoi que ce soit, mais qui proposent, voilà, une signature olfactive artistique différente, parce que il y a plein de gens qui en ont marre de peut-être sentir la même chose que ce qu'ils sentent tous les jours dans le métro ou dans les transports en commun. Donc, il y a une envie finalement de se démarquer. Et puis ensuite, c'est comment consommer mieux. Et comment est-ce que je consomme mieux? Ben, en choisissant des produits qui ont été conçus pour justement. Alors, c'est vrai, hein, le meilleur produit, c'est celui qu'on consomme pas. Mais en même temps, bon, ça serait c'est un peu triste si on arrête de se parfumer. Donc, essayons de se parfumer, bon, bah, le plus écologiquement parlant. Et c'est pour ça que on a fait des choix de certains partenaires plutôt que d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler avec IFF? Parce que notamment, ils ont une entité qui s'appelle LMR, qui est une entité qui avait été créée par Monique Rémy. En fait, ça s'appelle les laboratoires Monique Rémy, qui avaient été créés dans les années 80 et qui ont été rachetés au début des années 2000 par IFF. Et cette Monique Rémy était vraiment pionnière dans le sourcing et la traçabilité des ingrédients naturels. Donc, elle a travaillé durant des années et elle a commencé dans les années 80. Donc, on était loin des sujets qu'on aborde aujourd'hui. Hein. C'est l'évidence aujourd'hui, mais dans les années 80, ça ne l'était pas. Et elle a travaillé main dans la main avec les cultivateurs dans le monde entier pour justement développer tout un écosystème d'agriculture raisonnée, finalement, pour respecter non seulement l'environnement, mais aussi aider à faire grandir les communautés qui cultivent ces ingrédients. Donc voilà. Donc alors bien sûr, on dit souvent, c'est sûr que si tout le monde passe par du naturel, il y aura peut-être pas assez de fleurs pour faire suffisamment de parfums. C'est pas faux. On se dit alors du coup, l'alternative, c'est de rester dans le synthétique. Oui. Alors du coup, le synthétique, bon, il y a quand même le problème que c'est issu de l'industrie pétrochimique. Donc quelle est la solution? Et c'est ça que je trouve fascinant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, parfum, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à transformer tous ces portfolios d'ingrédients vers la biotechnologie, finalement, de synthétiser, mais de synthétiser de façon verte, hein, tous les principes de chimie verte dont on entend parler. Et tout ça, en fait, prend du temps. Hein. Moi, tous les jours, je challenge IFF en disant, mais voilà, alors, est-ce qu'on peut faire un parfum comme ci, comme ça et tout? Ils me disent, mais Sophie, ça, on s'est engagé pour 2030. Je dis, mais 2030, ça va pas, on est en 2023. Donc, on a ces discussions, hein, parce que les grands groupes, ouais, ils sont sur cette échelle de temps. Et moi, j'aurais envie que ce soit demain. Donc, mais il y a un tas de choses qui se passent en formulation et je trouve ça fascinant. Et puis après, il y a tout l'aspect pack, c'est-à-dire, voilà, alors, tu vois, je réfléchis à la rechargeabilité d'un flacon, mais la rechargeabilité d'un flacon, il faut pas oublier que si tu fais une recharge en physique, elle a aussi une empreinte carbone. Alors, est-ce que c'est aussi bien que ça? Le mieux, c'est ce qu'a fait Thierry Mugler avec La Source. C'est un parfum ressourçable. Donc, revenir en magasin pour ressourcer ton parfum. Mais là, ça nous pose, nous, en tant que petite marque, des contraintes de distribution incroyables. Donc, en fait, ce sont pas des sujets faciles. Hein. Je dis pas que j'ai la réponse sur tout, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on a à l'esprit dans l'équipe tous les jours et on se challenge et on essaie avec nos fournisseurs de trouver des solutions, mais on n'a pas toutes les réponses. Malheureusement, on n'a pas toutes les réponses.
Et là, justement, tu parlais d'équipe. Vous êtes combien à ce jour-là dans l'équipe ?
Alors, on est en pleine transition là en ce moment, parce qu'on est, on a des contrats d'alternantes qui se finissent, d'autres qui commencent. Alors, on doit être 6, donc avec une partie à Londres et une partie à Paris.
Justement, Londres, c'est très, très cosmopolite. Et tu parlais de plateforme de marque. Je me demandais, est-ce que Londres, qui grouille, etc., qui est très effervescent, ça a une influence sur ton approche toi, marketing en matière de parfum, ou c'est avec ton background, ça suffit, ou voilà. Mais est-ce que Londres, ça influence un peu? Parce que je pense qu'ils ont une démarche différente que, tu vois, qu'ont les Français.
C'est même difficile pour moi maintenant de répondre à cette question parce que ça fait 16 ans que j'y vis. Donc, je suis forcément plus la même Française que celle que j'étais quand j'ai quitté Paris en 2007, tu vois. Et que c'est difficile de répondre à cette question. Et il y a des moments où je rentre en France et je me sens étrangère. Il y a des situations où je vais être là, mais ouais, d'accord, ok, j'ai oublié que c'était comme ça. Ça a évolué, je savais pas. Et puis, de la même façon, tu vois, en Angleterre, bon, il y a des choses qui me paraissent normales. Et au début, peut-être qu'elles me paraissaient un peu anormales. Mais en tout cas... Oui, ça t'évite de voir les choses avec une vision trop centrée, trop chauvine finalement. Mais de facto, je pense que je le vis parce que c'est mon quotidien. Donc je crois que j'y fais même plus attention. Tu vois, moi, mes enfants sont nés à Londres, ils parlent sans arrêt anglais, français. Enfin, tu vois, donc on le vit tellement au quotidien que je pense que j'y réfléchis même plus en fait.
Est-ce que tu as noté des différences dans l'industrie des parfums entre la France et, on va dire, l'Angleterre? Général.
L'approche peut être différente parce que les réseaux de distribution sont très différents. Au UK, tu as encore beaucoup de grands magasins, même si post-Covid, il y en a beaucoup qui ont souffert et des chaînes qui ont fermé. C'est quand même, ça reste un marché de grands magasins. Après, il y a des chaînes comme Boots qui sont comme aussi, c'est le Sephora du UK, même si Sephora est enfin revenu à Londres aussi. Donc ça va redistribuer les cartes. Bon, le paysage des marques est un peu pareil. Je dirais que peut-être du fait de la parfumerie de niche est peut-être un peu moins développée en Angleterre où c'est plus dans des concept stores, dans des choses comme ça. Je te dirais, la France, c'est pareil. Il y a la parfumerie de niche, elle est en grand magasin, elle est dans des parfumeries indépendantes, mais on est aussi pas mal trusté par les Sephora, Nocibé, qui vendent la majorité des parfums. Donc, c'est vraiment des circuits parallèles qui n'ont rien à voir et on parle pas aux mêmes consommateurs, je pense, de toute façon, entre ceux qui vont chez Sephora et ceux qui vont pousser la porte d'une parfumerie comme je vois.
Et là, si je te demandais, c'est quoi votre vision à 5 ans pour Bastille?
Ça serait que la marque ait atteint vraiment une belle distribution à l'international. Hein. On a déjà 25 pays aujourd'hui, mais qu'on en ait plus et qu'on ait réussi l'internationalisation de la marque dans des marchés comme les US, comme la Chine. On regarde aussi le Moyen-Orient, mais je pense qu'à aujourd'hui, on a une proposition de jus qui est moins adaptée pour des marchés comme Dubaï, là où tu es, mais j'aimerais que Bastille soit une des références en termes de marque, de niche transparente et durable, qu'on soit vraiment une référence sur ce marché. Ouais.
Tout ce que je te souhaite, ça c'est bien. Je voulais qu'on revienne un peu sur ton expatriation quand tu es arrivée à Londres. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie en arrivant et comment tu t'es dit « Ah ouais, il faut que je reconstruise quand même un réseau pro-perso ».
Alors oui, je me souviens très bien quand je suis arrivée, c'était en mai 2007, donc on venait de se marier. Moi, j'avais quitté mon dream job à l'époque, je travaillais chez Chanel au développement parfum. Donc ça avait été très difficile pour moi de quitter ce dream job et de m'installer à Londres. Et je me souviens très bien de me réveiller le matin, mon mari, lui, partait au boulot, il se posait pas de questions. Et puis moi, je me réveillais, j'étais dans cet appartement à Londres, et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Donc, assez rapidement, bien sûr, je me suis mis à chercher du travail, ce qui n'a pas été forcément très, très facile, parce qu'en fait, quand on arrive au UK, pour travailler, notamment dans l'industrie dans laquelle j'étais, il fallait connaître le marché du UK et sa distribution qui est très particulière. Et en fait, je ne la connaissais pas. Donc, je me suis pris pas mal de portes. Et je me disais, pourtant, en arrivant de chez Chanel, tout le monde va m'ouvrir les portes. Eh ben non. Donc ça m'a fait du bien aussi parce que ça a remis un peu les pendules à l'heure. Et puis, assez rapidement, en fait, je me suis inscrite quand même. Alors, c'est peut-être un réflexe français, mais je me suis inscrite à Londres Accueil, qui est cette association qui aide justement les expatriés français et françaises à s'installer à Londres. Et en fait, bon, c'est assez sympa quand même parce qu'on se retrouve avec une communauté qui vit les mêmes choses que vous au même moment. Et du coup, je me suis fait des super amis. J'ai eu, on apprend un tas d'astuces, de tips, de choses à faire et ne pas faire quand on s'installe. La première année, j'ai passé beaucoup de temps à Londres Accueil. Et puis en fait, assez rapidement, finalement, j'ai trouvé du travail. Et à partir de là, je n'ai pas réussi à pouvoir continuer à aller à Londres Accueil, parce que Londres Accueil, typiquement, il bon, faut pas travailler pour pouvoir y aller, ou alors tu peux faire que les réunions le soir. Mais du coup, je suis passée à autre chose. Et là, j'ai commencé vraiment à faire mon trou, plus avec les Anglais, quoi, avec mes collègues. Et ça, c'était. Mais ouais, je me souviens très bien des premières journées qui n'avaient pas été faciles.
Ça me fait penser, je fais une parenthèse. Est-ce que c'est facile ou pas de faire des. Enfin, est-ce que Londres, c'est une ville propice pour faire des partenariats avec des marques ?
Oui, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de collaborations entre les marques. J'en ai pas là qui me viennent à l'esprit, mais oui, c'est un marché très, très dynamique, très créatif et très novateur. Enfin, les Anglais testent des choses et puis si ça marche pas, bah, ils move on. Enfin, tu vois, ils passent à autre chose. Donc, ouais.
Il y a beaucoup d'entrepreneuriat féminin ?
Il y a pas mal d'entrepreneuriat féminin, j'en rencontre de plus en plus. C'est assez facile en fait de monter sa boîte à Londres, enfin au UK en général. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, oui, hommes et femmes, j'en croise tous les jours et oui.
Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas à Londres, en Angleterre en général ? Qu'est-ce qui t'irrite encore, ou tu vois ?
Alors, qu'est-ce que j'aime au UK ? Alors, j'adore Londres et ses parcs. J'adore alors j'ai dû devenir anglaise au fond de moi, mais j'adore les jardins, quoi. En arrivant, j'étais pas vraiment dans ce trip-là du tout, hein, surtout quand on habite à Paris, qui est une ville quand même très très urbaine. Mais alors j'ai découvert les parcs anglais et je me surprends le printemps à m'exclamer devant la floraison des fleurs et tout ça. Enfin, je suis devenue très anglaise là-dessus. Bah, j'adore la ville, son énergie. Tu parlais de ville cosmopolite. C'est une ville qui a énormément changé. Alors, je me souviens quand on est arrivé en 2007, tu trouvais pas tout pour manger. C'était un peu compliqué. Maintenant, tu trouves tout et n'importe quoi. La scène gastronomique est super et on est assez foodie avec mon mari, donc on aime bien en profiter. Ouais, j'adore leur humour. Bon, alors quelquefois, ils disent pas toujours les choses en face. Bon, bah, on apprend à décoder. Hein. Mais tu vois, hier, on a pris l'autoroute. Je déteste leurs autoroutes. Leurs autoroutes sont pourries, quoi, par rapport aux autoroutes françaises hyper léchées et tout. Les autoroutes en Angleterre, c'est vraiment pourri, quoi. À chaque fois, je me fais la réflexion.
Ils sont quand même assez ouverts aux Français.
Oui, ouverts. Et puis, il y a cette... En fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a cette tolérance, tu vois, qui fait qu'il y a toujours, une certaine civilité aussi dans les comportements. Alors que je trouve que quand je rentre quelquefois à Paris, il y a des choses où je suis un petit peu surprise. Enfin, j'ai perdu l'habitude. Le civisme est vraiment une valeur qui est inculquée dès le plus jeune âge à l'école. Et je pense que en France, on a peut-être un petit peu perdu là-dessus. Et ça se retrouve un peu dans les comportements, je dirais, d'adultes, en fait. Hein.
Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote inspirante ou un moment clé dans ton parcours en reprenant cette marque ?
Alors, il y en a une qui est anecdotique, mais qui est... et je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, mais récemment, j'ai été interviewée pour passer à la télévision. Donc, on est passé au journal de M6 au 12h45. Donc, c'était un des... mes premiers passages à la télévision, n'est-ce pas ? Et ce qui a été dingue, c'est la minute où je suis passée à la télé, l'afflux de commandes sur le site internet. Et ça m'a bluffée. Je me suis dit, je savais bien sûr que l'effet télévision vu à la télé, ça fait la différence, mais là, c'était autre chose de le vivre sur, tu vois, en réel, sur ta marque, sur des ventes qui tombent. J'ai trouvé ça fascinant, même si ça n'a rien de nouveau. Enfin bon, voilà. Mais tu vois, j'étais là, mais tiens, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Tu sais, tu as des notifications Shopify qui tombent toutes les 30 secondes. Et tu es là, ah ouais, bah, c'est l'effet vu à la télé marche toujours.
et vous êtes plus distribué où au final ?
Ben, en fait, c'est assez équilibré. On est pas mal distribué en Europe. Là, on va lancer avec un partenaire en Italie. Donc, on va faire un gros lancement en Italie. On a des distributeurs au Danemark, en Belgique. En France, on est dans les grands magasins. On est en train justement de regarder le UK pour lancer ou plutôt relancer la marque au UK. On regarde la Chine, on est présent au Japon, en Corée. En fait, on est assez bien répartis sur les zones. Là où on est le moins pénétré, c'est, je te le disais, le Moyen-Orient. Et puis, on est en train aussi de développer les US. En fait, étonnamment, sur le site e-commerce, notre deuxième pays d'expédition, c'est les US. Le premier, c'est la France, et le deuxième, c'est les US. Donc, je pense que Bastille Day, ou Bastille a des beaux jours devant soi, la marque Être beau jour devant soi aux US. Donc, je suis assez excitée à l'idée de travailler ce marché.
Ouais, surtout que ça doit pas être évident, tu vois. Enfin, tu le sens pas, le parfum, quand t'es loin. Tu vois, t'as pas la boutique.
C'est pour ça qu'on a développé un petit kit découverte, qui est un petit kit d'échantillons que tu peux acheter sur notre site web, qui te permet de recevoir tous les échantillons de la collection, de les essayer tranquillement chez toi, puis de choisir ton coup de cœur. Et du coup, à l'achat d'un format normal, on te rembourse le coffret découverte. Donc, c'est un moyen assez safe de tester les parfums sans prendre de risques financiers.
Quel conseil tu donnerais à d'autres femmes qui aspirent à entreprendre dans le domaine de la parfumerie?
Alors, le conseil que je donnerais, c'est de savoir bien s'entourer, voilà, de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide sur les sujets qu'elle maîtrise moins bien, parce que c'est pas toujours évident de tout connaître, hein, moi non plus. Il y a un tas de choses où j'apprends par moi-même, mais quelquefois c'est quand même bien de se faire aider par un expert. Et puis de bien réfléchir à la proposition, en quoi elle est différenciante, pour justement essayer d'apporter une valeur ajoutée, quelque chose de différent sur le marché, qui, comme tu le disais, est déjà hyper saturé. Donc c'est pas toujours évident d'arriver avec un produit super innovant. Mais encore une fois, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans le parfum, même par rapport aux soins et au maquillage. C'est une industrie qui a peut-être évolué un petit peu moins rapidement que d'autres industries sur certains sujets, notamment la transparence dont on parlait.
Est-ce que tu dirais que l'expatprenariat, c'est une aventure à tenter?
Oui, bien sûr, hein, c'est pas comme tout entrepreneuriat, c'est pas évident. Et je pense que le faire en plus dans un pays qui n'est pas le sien, entre guillemets, un pays d'adoption, rajoute une complexité supplémentaire, mais en même temps, c'est super enrichissant, puis très satisfaisant quand on arrive à créer de la valeur, à faire des choses. Donc oui, il faut pas se décourager. Mais si c'était à refaire, je le referais, ouais, sans hésitation.
Bon, et pour finir, la dernière question, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire The Musette?
Alors, j'ai pensé à passion, courage et humour.
Super, merci beaucoup Sophie d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir pris le temps de partager ton expérience, d'avoir donné des conseils, d'avoir partagé ta vie d'expatriée, ton regard sur les Anglais, sur les routes anglaises.
Moi qui suis anglaise aussi, hein, maintenant j'ai le passeport, donc je peux pas dire n'importe quoi, hein, je suis britannique aussi.
C'est pas trop difficile de rouler à gauche, on prend vite le pli.
Non, ouais, ça c'est marrant, ça c'est une anecdote du début, tu sais, tu tapes la main une ou deux fois dans la portière et puis t'as vite compris que oui, ça allait pas marcher, donc... Mais moi aussi j'étais très contente, Adeline, de participer à ce podcast de The Musette, celui de la rentrée. Donc, c'est sympa. Et puis, moi aussi, je te souhaite bonne continuation avec The Musette et un beau développement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir rapidement.
Mais bien sûr, mais moi, je vais faire venir les...
À Londres.
Des parfums, mais je vais faire venir
alors,
des...
Voilà.
Merci beaucoup, Sophie. Et puis, à bientôt. Et puis, on continue à prendre de tes nouvelles. Bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir, Adeline. À bientôt.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.